VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Lydia Abidjan, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition qui fait campagne contre le régime du président Faure Gnassingbé a appelé à une nouvelle journée de protestation aujourd'hui, au lendemain des violences qui ont fait plusieurs morts dans les deux plus grandes villes du pays. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Le Togo a connu une journée meurtrière ce mercredi. Selon le gouvernement, le bilan est de 4 morts par balle, dont 3 à Sokolé, ville située à plus de 330 km au nord de Lomé, ce qui porte à 8 le nombre de morts enregistrés depuis le début de cette semaine. Un chiffre que conteste l'opposition, qui indique avoir relevé 2 décès à Lomé hier, contre 1 annoncé par le ministre de la Sécurité, Yacke Damhan. Ce dernier, dans son bilan en fin de journée, a fait savoir qu'une soixantaine de personnes ont été interpellées et plusieurs autres blessées, dont certaines par balles. Ces heurts violents entre les forces de l'ordre et manifestants ont été dénoncés aussi bien par le gouvernement que par l'opposition. La coalition des 14 partis fait savoir que si les répressions continuent, elle organisera tous les jours des manifestations publiques. Rappelons que depuis le 10 octobre, le gouvernement togolais a interdit toute marche les jours ouvrables, une mesure que l'opposition n'entend pas respecter. Kailosom, Lomé, VOA Afrique.
La CPI, la Cour pénale internationale de la Haye, a intensifié ses enquêtes sur les responsables des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, quel que soit leur statut ou leur appartenance politique. C'est ce qu'a affirmé sa procureure générale, Fatou Bensouda, à Fraternité Matin, le quotidien national ivoirien. Les détails avec Ekia Badou.
La procureure générale de la CPI affirme que son bureau s'emploiera à faire traduire en justice les principaux responsables des violences post-électorales. Madame Bensouda précise que ces enquêtes sont menées en toute discrétion et confidentialité, sans citer de nom. Les violences de 2010-2011 ont fait près de 3000 morts suite à une dispute sur les résultats des élections en Côte d'Ivoire. Deux camps ont été accusés d'avoir commis de nombreuses exactions. L'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ancien leader des Jeunes Patriotes, sont actuellement jugés à la CPI pour crimes contre l'humanité. Les deux hommes ont plaidé non coupables. L'opposition pro-Gbagbo dénonce une justice des vainqueurs car jusque-là, aucun responsable du camp Ouattara n'a jamais été inquiété. Le président Alassane Ouattara a affirmé en février 2016 qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la CPI, estimant que son pays a maintenant une justice opérationnelle.
Par ailleurs, la Cour pénale internationale poursuit également ses enquêtes au Mali après avoir condamné le principal responsable de la destruction des mausolées de la cité historique de Tombouctou. C'est ce qu'a indiqué mercredi à Bamako sa procureure Fatou Bensouda. Selon Madame Bensouda, les enquêtes continuent et elles visent d'autres crimes tels que les viols, les crimes contre les forces de maintien de la paix, les meurtres et les assassinats. La procureure n'a pas donné d'autres détails sur les raisons précises de sa visite au Mali, où des groupes armés islamistes continuent d'attaquer régulièrement les militaires maliens et les casques bleus étrangers. Afrique centrale maintenant, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et en Centrafrique, au menu du sommet des dirigeants des pays des Grands Lacs aujourd'hui à Brazzaville. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Les questions de la paix et de la sécurité en RDC, en Centrafrique, mais aussi au Burundi et au Soudan du Sud, à l'ordre du jour de ce sommet des chefs d'État des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Des experts et des ministres des Affaires étrangères des 12 États membres de la CIRGL ont déjà eu des discussions préliminaires sur les foyers de tension de la région. En octobre 2016, à l'issue d'une réunion à Luanda, les dirigeants des pays des Grands Lacs avaient appelé les États de la région et de l'Afrique australe à fournir des contingents supplémentaires aux forces de l'ONU en RDC. L'objectif était de renforcer les opérations menées contre les groupes armés en étroite collaboration avec Kinshasa. Ces contingents n'ont toujours pas été déployés. La Centrafrique voisine connaît également un regain de violence dans l'est et dans le centre du pays. La présence des casques bleus de la MINUSCA n'a pas permis d'imposer un retour au calme.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
On reste au Congo-Brazzaville. Le gouvernement et les syndicats du CHU, le centre hospitalier universitaire, sont parvenus mercredi soir à un premier accord depuis le déclenchement d'une grève générale dans cet établissement de santé. Les agents du CHU acceptent un mois de salaire pour reprendre le travail aujourd'hui jeudi. Reportage de Nguelan Goussou, notre correspondant à Brazzaville.
C'est jusqu'à tard dans la nuit, à 22h, que le gouvernement et les syndicats du CHU sont parvenus à un minimum d'accord. Un mois de salaire sur les 4 réclamés sera versé aux agents du CHU. Ces derniers s'engagent à reprendre le travail dès ce jeudi matin. Un accord qui ne satisfait pas plusieurs agents et les négociations doivent se poursuivre pour obtenir dans les 15 jours un autre paiement de salaire.
Les agents du CHU et les peuples congolais retiendront de ce que l'intersyndicale ce soir a discuté, a parlé avec le Premier ministre et les membres du gouvernement. Nous avons travaillé et bien travaillé. Mais ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé. C'est notre cahier de charges qui stipulait que nous avions des impayés, que nous réclamions que ces impayés soient pris en compte par le gouvernement et payés et que les conditions de travail nous soient améliorées parce que figurez-vous qu'il nous manque au CHU du coton, de l'alcool, des gants et que sais-je encore.
Pendant ce temps, le CHU de Brazzaville est devenu un vrai monastère où le silence a remplacé les cris angoissants des malades. Les salles d'hospitalisation et les couloirs du plus grand centre hospitalier du pays sont quasi vides. Depuis le 14 octobre, le service minimum s'est réduit alors que les urgences ne fonctionnent plus. Très discret, les médecins ne se prêtent presque plus aux questions des journalistes.
Il n'y a pas assez de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues. Donc on est au nombre de 2 par équipe dans les services. Donc c'est un peu ça. Mais il y a trop de travail.
Beaucoup de malades ont dû quitter le CHU alors qu'ils suivaient des traitements spécialisés. Franck Ndilamalembe, coordonnateur national du mouvement Le Ras-le-Bol Congolais, auteur d'une vidéo sur le CHU et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, exprime sa tristesse.
Dans certains services, je peux vous dire que c'était vraiment un hôpital fantôme où il n'y avait ni malade, ni médecin. Maintenant, après, vous baladez en montant dans les étages, où il devrait y avoir, je dirais, aller une bonne cinquantaine de malades ou une centaine de malades, et bien vous allez tomber que sur 2 malades. La question qu'il faut se poser, c'est où sont partis ces malades? C'est tout le Congo qui en parle aujourd'hui. Comment on peut laisser le principal centre hospitalier de la République de notre pays être dans le chaos total, faire en sorte qu'il ne puisse plus recevoir ne serait-ce qu'un malade? Et on considère qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui doivent être mises devant les tribunaux pour répondre de leurs responsabilités.
Un dispositif policier a été déployé devant les installations du CHU pour empêcher à tout intrus d'y accéder, mais surtout aux journalistes. Nguelan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Maroc, près de la moitié des militants du Irak, le mouvement de contestation dans la région septentrionale du Rif, qui était en grève de la faim pour protester contre leur détention, ont suspendu cette action. Le point avec Solange Yamounissa.
49 militants et sympathisants sont incarcérés dans une prison de Casablanca dans l'attente de leur jugement. Ils ont été arrêtés entre fin mai et juin à Al-Ousaïma dans le nord, foyer de la contestation contre la marginalisation de la région du Rif. Depuis 5 semaines, 38 d'entre eux suivaient une grève de la faim, mais environ la moitié a décidé de la suspendre. 2 des meneurs, Najib Mjik et Mohamed Djelloul, refusent toujours de se nourrir. Depuis la mi-septembre, la cour d'appel de Casablanca a renvoyé 3 fois le procès de 21 jeunes âgés d'une vingtaine d'années. La prochaine audience est prévue le 24 octobre. La date du procès de Nasser Zefzaf, leader du mouvement Hirak, n'a pas été encore fixée. Entre 200 et 300 membres de ces mouvements sont derrière les barreaux. Poursuivis pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, tentative de sabotage et de pillage, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.
Et pour terminer, en Espagne, le gouvernement espagnol a annoncé ce jeudi qu'il allait de l'avant pour suspendre l'autonomie de la Catalogne après la menace du président séparatiste catalan Carles Puigdemont de déclarer l'indépendance si Madrid continuait sa politique de répression à l'égard de sa région. Madrid demandait à Carles Puigdemont de préciser clairement qu'il avait renoncé à l'indépendance de sa région. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.